9 Minuten ab 8.
Den Invité von der Redaktion.
Das ist beim Anikören zu heute Morgen ein Politikwissenschaftler von der Uni Lützebüsch.
Das ist den Alexandre Mortelette. Bonjour, Monsieur Mortelette.
Bonjour Madame Gorenz et merci pour votre invitation.
Le nouveau Front Populaire a créé la grande surprise et arrive en tête du second tour. La surprise est aujourd'hui ce matin toujours aussi forte, mais les questions se multiplient. Est-ce que vous avez anticipé ce rebondissement énorme de la gauche?
Alors on peut considérer qu'on avait anticipé ce rebondissement de cette alliance de gauche, cette nouvelle forme de la NUPES qui était intervenue en 2022, mais à cette échelle, je pense qu'on ne pouvait pas le prévoir. Il y a eu un gain de 31 sièges entre 2022 et 2024. Ce qui est assez conséquent et ce qui les place en tant que première force politique du pays. Et on a attendu, je pense, depuis une semaine, un tout autre scénario qui voyait placer le Rassemblement national en tête. Ce n'a pas été le cas.
Ben, vous avez mentionné le Rassemblement national. C'est qu'il faut constater quand même, malgré les surprises et la grande satisfaction de la gauche, c'est une percée historique pour le Rassemblement national. Comment l'expliquer ?
Comment l'expliquer? Je pense que ça s'inscrit dans la continuité des très bons résultats électoraux qu'il y a eu aux élections européennes. Et on a une constante évolution de ce parti qui arrive à gagner des sièges. Entre 2022 et 2024, ils ont gagné plus 58% de sièges au Parlement, ce qui est assez conséquent, ce qui les place dans un bloc à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait une campagne sur les trois thèmes principaux, le pouvoir d'achat, qui touche bien évidemment énormément de Français, les questions de sécurité, de retour de l'autorité, et les questions de migration, qui sont aussi centrales. Je pense que pour beaucoup, ça a pu convaincre, et il faut aussi considérer que certains électeurs ont voulu, voilà, et c'est ce qui a été dit dans certains témoignages, tester autre chose. Ils ont voulu, voilà, aller voir... un parti hors cadre qui n'avait jamais été au pouvoir jusqu'à présent.
Mais il faut quand même aussi constater qu'au premier tour, un tiers des Français ont voté pour le Rassemblement national, donc ils ont vraiment progressé. C'est considérable, oui, mais qu'est-ce qui a enfin de quand même bloqué une victoire du RN? Est-ce que c'est la participation historique de 67% des électeurs? Est-ce que c'est un barrage républicain, le bloc centriste qui résiste, l'effet répulsoir de la France insoumise?
Vous avez raison, je pense que c'est un ensemble de toutes les raisons que vous venez d'évoquer. La participation a été assez importante, près de 67% des Français. Elle n'est pas historiquement haute parce qu'on a connu des taux de participation beaucoup plus élevés, mais depuis 30 ans, c'est vrai qu'on est sur une pente descendante, surtout depuis les dernières élections, on avait un taux de participation de 47,5%, ce qui est assez peu. Et vous avez raison, ce front populaire qui émergeait au soir de la dissolution et de ses résultats aux élections européennes, qui s'est fortifié au travers de cette semaine de campagne, qui a aussi, en plus du barrage républicain qui a été appelé par différents partis de droite comme de gauche, certains estimaient qu'il fallait tout sauf le RN. D'autres estimaient qu'il fallait également tout sauf le RN et la France insoumise. Donc il y a eu, voilà, un contrebalancier de toutes ces raisons qui font qu'au final, le parti du Rassemblement national, on va dire, minore un peu son succès attendu.
Alors je l'ai déjà mentionné, il y a les questions, plein de questions qui se multiplient. Quel scénario alors pour la suite? Quelle majorité pourra se former? Quel gouvernement?
Ça, c'est une très bonne question. On a trois blocs. On a le bloc de gauche, on a le bloc de l'ancienne majorité présidentielle centre-centre-droit et on a le bloc d'extrême droite. Donc, au vu des résultats, on peut estimer que le président Emmanuel Macron va appeler ce bloc de gauche à nommer un Premier ministre, à désigner un Premier ministre et à nommer son gouvernement. C'est une hypothèse parmi d'autres parce qu'il leur faudra, avec seulement 180 députés, il leur faudra trouver des alliés. Ça sera très difficile de gouverner comme ça. Donc il leur faudra soit former des coalitions ou alors avoir des coalitions par texte, ce qui est très difficilement envisageable pour les Français, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec le parti Ensemble d'Emmanuel Macron depuis 2 ans. Donc c'est très difficilement envisageable. Ce qu'on peut aussi envisager, c'est un gouvernement technique qui va être nommé, comme on a pu le voir aussi en Italie dans les récentes années, où on a un gouvernement qui est technique sur certains dossiers, expert sur certains sujets, et qui pourra essayer, voilà, avec parcimonie, de proposer des textes et pourquoi pas de les faire adopter. Sachant que si c'est le cas, on pourra toujours recourir à une éventuelle autre dissolution et seulement dans un an.
Mais pour éviter alors un blocage en France, est-ce qu'il va falloir apprendre une nouvelle manière de faire fonctionner la démocratie française ? Je m'explique. Jusqu'à présent, la France était quand même un régime semi-présidentiel. Pour vous, en tant que politologue, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire. Maintenant, avec ce résultat-là, est-ce qu'on va passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire ?
On peut le supposer, on peut l'espérer, mais c'est vrai que nos institutions, notre système politique en France fait qu'on accorde une place centrale au président. Il a beaucoup de pouvoir. Également son premier ministre, il faut le considérer, le chef du gouvernement, le chef de la couleur politique généralement du président.
Généralement,
voilà,
jusqu'à
généralement
présent.
Du même bord. Là, on peut estimer qu'on aura une coalition, donc un gouvernement de cohabitation, ce qui veut dire que le Premier ministre sera d'une autre couleur politique que le Président de la République. Ce qui veut dire qu'il faudra faire fonctionner l'appareil parlementaire, il faudra trouver des alliances sur certains textes, sur certains sujets, essayer de former une forme de consensus. Voilà, mais de là à changer de système, de passer d'un système présidentiel à plus parlementaire, c'est ce qu'on a déjà eu dans le passé. Hein. Et c'est ce que souhaite aussi la France Insoumise et ce bloc de gauche qui souhaite revitaliser cette activité parlementaire et un peu contrecarrer ce pouvoir présidentiel qu'on a vu exercer au travers de l'article 49.3, notamment l'année dernière, où en fait on se passe du débat parlementaire et on fait adopter une loi selon un article distinct de la Constitution.
Ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal va annoncer sa démission. Il a dit hier, et je cite, « Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais je refuse de la subir ». Comment est-ce que vous interprétez cette phrase ?
Alors oui, il ne l'a pas choisie, c'est le président de la République qui l'a choisie. Il s'est... Avant d'annoncer sa décision en français, il a concerté les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et également le Premier ministre. Je pense qu'il lui a juste fait état de sa décision. Gabriel Attal n'a jamais voulu cette dissolution. En plus, cette dissolution qui était un argument de campagne du Rassemblement national pendant la campagne pour les européennes. En cas de mauvais résultat, on va exiger une dissolution. Donc je pense que oui, il ne l'a pas choisi, mais il a refusé de la subir dans le sens où il est monté au front. Il a fait campagne, il a fait une bonne campagne, on peut aussi considérer ça comme une bonne campagne. Il a été présent, il a été vif. Donc oui, il a refusé de la subir parce que voilà, il n'avait au final pas le choix. Il avait envie de faire, je pense... bloc face à la montée des extrêmes et à cette possibilité qui se dessinait.
Mais est-ce qu'on pourrait interpréter cette phrase comme une sorte de rupture avec Emmanuel Macron ?
C'est une forme de rupture. Beaucoup, de toute façon, l'ont dit. Hein, c'est pas le seul à avoir exprimé son mécontentement, entre guillemets, par rapport à cette dissolution et sa surprise. On dit que Emmanuel Macron avait cette idée en tête depuis un an déjà et que depuis quelques mois, ça s'intensifiait. Oui, il y a une certaine rupture. Et bien, je pense que c'est un homme politique qui est encore très populaire au sein des catégories de personnes, surtout les jeunes. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, pourra, a fortiori, tirer son épingle du jeu en marquant une certaine rupture avec Emmanuel Macron, pour lequel les Français ont marqué une certaine forme de désaveu. Certains ministres n'ont pas été élus ou réélus. Le bloc de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle perd quand même quelques voix, quelques sièges au Parlement. Donc perdent leur appui au Parlement, je pense qu'il a envie de se marquer justement de cette politique-là.
Alexandre Mortet, regardons au-delà de la frontière, des frontières de la France, comment est-ce que les Français au Luxembourg ont voté ?
Alors les Français au Luxembourg, qui étaient appelés aux urnes hier, ont renouveler leur confiance au candidat de l'ancienne majorité présidentielle du parti d'Emmanuel Macron. Donc avec une courte tête, je crois qu'il est arrivé en tête avec 50,24% des voix. Face à lui, il y avait une députée socialiste, donc du Nouveau Front Populaire, Madame Gondard, qui est arrivée juste derrière, donc logiquement avec 49,76% des voix. On peut considérer que parmi les électeurs dans d'autres pays, des Français de l'étranger, on a quand même ce bon ancrage du parti d'Emmanuel Macron, qui conserve quand même une majorité de ses sièges.
Parlons aussi de l'Union européenne. Nous savons que le moteur en fait, de l'Union européenne est toujours propulsé par les relations franco-allemandes. Quel avenir alors pour ce couple-là ?
C'est une très bonne question, un peu hypothétique. C'est vrai que le couple franco-allemand était un peu sur le déclin. On avait vraiment une relation entre le chancelier et le président français qui s'était détériorée. Il restera à savoir quel type de gouvernement on aura, quel premier ministre on aura aux manettes, quel projet aussi pour l'Europe. Est-ce qu'on a un parti plus européiste ? Est-ce qu'on a un parti plus réticent ? Voilà, on a diverses positions par rapport à l'Europe. Il faudra voir ce qu'il en advient. Mais il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a aussi envoyé un bon nombre de députés européens à Bruxelles. Donc il faudra aussi compter sur cet équilibre entre le Parlement européen et le nouveau Parlement français.
Nous allons suivre toutes ces évolutions-là. Merci à Alexandre Mortelette, politologue Opta Uni Lützebusch. Merci pour cet entretien.